si surpris qu'un étranger puisse parler même quelques mots d'arabe, qu'ils ouvraient des yeux ronds, et faisaient mille efforts d'attention pour essayer de pénétrer les mystères de l'articulation exotique des francs. Sarah parle bien mieux l'arabe ou le persan que l'allemand, il faut le dire. Et j'ai toujours eu du mal à l'entendre parler notre idiome. Peut-être, quelle horrible pensée, parce que sa prononciation me rappelle celle de ma mère. Ne nous aventurons pas sur ce terrain glissant. Laissons ce domaine au bon docteur, le voisin du dessous de Madame Kafka. Sarah me racontait qu'à Prague, Kafka est un héros, au même titre que Mozart, Beethoven ou Schubert à Vienne. Il possède son musée, ses statues, sa place. L'office du tourisme organise des Kafka Tours et on peut acheter des plaques magnétiques avec le portrait de l'écrivain pour coller sur son frigo géant à Oklahoma City en rentrant chez soi. On ignore pourquoi les jeunes Américains se sont entichés de Prague et de Kafka. Ils y traînent en bande, en grand nombre, passent plusieurs mois dans la capitale tchèque, quand ce n'est pas des années. Surtout les écrivains en herbe sortis des universités de creative writing. Ils viennent à Prague comme on allait autrefois à Paris, pour l'inspiration. Ils tiennent des blogs et remplissent des carnets ou noircissent des pages virtuelles dans des cafés, boivent des litres et des litres de bière tchèque, et je suis sûr qu'on en retrouve certains à la même place 10 ans plus tard, mettant toujours la dernière main à leur premier roman ou au recueil de nouvelles censées les propulser vers la gloire. À Vienne, fort heureusement, nous avons surtout de vieux Américains, des couples d'un âge respectable qui profitent des palaces en surnombre, font la queue pour visiter le Hofburg, mangent des Sachertorte, vont à un concert où l'on joue Mozart en perruque et en costume, et rentrent à pied dans le soir jusqu'à leur hôtel, bras dessus, bras dessous, avec la sensation de traverser le 18e et le 19e siècle en entier, gentiment émoustillés par la peur qu'un coupe-jarret pourrait surgir d'une de ces ruelles baroques désertes et silencieuses pour les dévaliser. Ils restent 2, 3, 4 jours, puis vont à Paris, Venise, Rome ou Londres, avant de retrouver leur pavillon à Dallas et de montrer à leur entourage ébahi leurs photos et leurs souvenirs. Depuis Châteaubriand, on voyage pour raconter. On prend des images, support de la mémoire et du partage. On explique qu'en Europe, les chambres sont minuscules, qu'à Paris, toute la chambre d'hôtel était plus petite que notre salle de bain, ce qui provoque les frissons de l'assistance. Et aussi une lumière d'envie dans les regards. Venise est magnifiquement décadente. Les Français sont extraordinairement discourtois. En Europe, il y a du vin dans toutes les épiceries et tous les supermarchés, partout. Et on est content. Et on meurt en ayant vu le monde. Pauvre Stendhal. Il ne savait pas ce qu'il faisait en publiant ses mémoires d'un touriste. Il inventait bien plus qu'un mot. Grâce au ciel, disait-il, le présent voyage n'a aucune prétention à la statistique et à la science. Sans se rendre compte qu'il poussait des générations de voyageurs vers la futilité, avec l'aide du ciel, qui plus est. Amusant que ce Stendhal soit associé non seulement au mot touriste, mais aussi au syndrome du voyageur qui porte son nom. Il paraît que l'hôpital de Florence possède un service psychiatrique à part pour les étrangers qui se pâment devant le musée des offices ou le Ponte Vecchio, une centaine par an. Et je ne sais plus qui m'a raconté qu'à Jérusalem, il y avait un asile spécial pour les délires mystiques, que la seule vue de Jérusalem pouvait provoquer des fièvres, des étourdissements, des apparitions de la Vierge, du Christ et de tous les prophètes possibles au milieu des intifadas et des juifs orthodoxes, qui s'en prennent aux mini-jupes et aux décolletés comme leurs collègues arabes aux militaires, à coups de pierre, à l'ancienne et de façon Radim Jiddan. Au milieu de tout ce que la planète compte comme savants laïcs et religieux, penchés sur de vénérables textes, des Torahs, des évangiles et même des Corans dans toutes les langues anciennes et toutes les européennes, selon les écoles protestants allemands, hollandais, britanniques et américains, papistes français, espagnols, italiens, jusqu'aux Autrichiens, aux Croates,